parole du jour avec le Père Willem.
Vouloir vivre la bienveillance. Après la naissance de Jésus, un ange du Seigneur s'adresse aux bergers pour leur annoncer la bonne nouvelle de la naissance de leur Sauveur. D'autres anges l'accompagnent pour chanter « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés ». Dieu nous a donné un Sauveur et le chant des anges parle de paix. De paix aux hommes qui sont objets de bienveillance. La paix est un effet de la bonté de Dieu. En le reconnaissant et en l'accueillant, nous devenons nous-mêmes des prophètes, comme Siméon qui déclare « Mes yeux ont vu ton salut ». C'est la preuve que Dieu nous veut du bien, que ce bien agit et se manifeste. S'ouvre alors une perspective, un parcours. La bienveillance se vit comme un itinéraire. Et Luc nous le décrit d'ailleurs dans son évangile. Il s'agit de changer son regard. Ce n'est pas une approbation ou une gratification. C'est l'action gracieuse qui est en marche pour notre salut. Cette action n'est pas en retour de notre amour, mais elle le provoque, l'attend, l'appelle, le dynamise, pour peu que nous entrions dans la démarche qui peut alors être, disons, en termes de relation. C'est pourquoi François Bouvon dit l'eudoxie de Dieu suscite l'eudoxie de l'homme ou de la femme et attend cette réponse avec importance. L'eudoxie, l'admiration, la capacité de s'émerveiller, de s'étonner de ce qu'est l'autre. C'est aussi ce que Zachée a évoqué dans le chapitre 10 de Luc. Zachée, le petit homme qui avait besoin de voir Jésus, mais il y avait des comptes à régler avec lui-même parce qu'il n'était pas toujours très honnête, lui qui était chargé de veiller sur la manière de traiter les impôts des autres, et il se donnait une certaine part de bénéfices très gentiment. Oui, le narrateur présente Zachée en fonction de Jésus qui doit passer par là et que l'autre veut absolument voir. Le pôle d'attraction de tous est finalement voir celui qui vient. C'est un personnage étonnant, mais ce petit homme veut le voir, lui le collecteur d'impôts, et les autres au bord du chemin se hissent comme ils peuvent pour voir, on ne voit pas tous les jours, un personnage de grande réputation. C'est Jésus. Alors le récit vise à laisser Jésus révéler que Zacharie a recouvré son idée qui était cachée, voire perdue, de croyant. Mais cela n'est pas un seul but, puisque de son côté, Zachée va découvrir en Jésus son Seigneur. Alors comment cette transformation a-t-elle été rendue possible? Zachée souhaitait seulement apercevoir Jésus. Et si ce dernier ne s'était pas arrêté pour l'interpeller, rien ne serait sans doute arrivé. Son initiative a changé la vie d'un homme. Bref, Jésus n'est pas seulement l'auteur de la transformation, il la provoque, car en voyant Zachée sur son arbre, il aimait pour se demander devant tous, finalement, que pouvait vivre ce petit homme grimpé sur un arbre. Que voulait-il, finalement? Qui était-il? Or, il l'appelle par son nom. Il l'appelle Zachée, montre ainsi qu'il le connaît d'une certaine manière. Les gens alentour se demandent comment Jésus peut aller chez un pécheur qui a la réputation d'un homme bizarre, louche et pas honnête du tout. Leur remarque permet de faire connaître au lecteur les valeurs reçues et partagées par les Juifs de ce temps-là, et à Jésus lui-même de proclamer à tous ceux qui le considèrent comme un pécheur que Zachée est sauvé. Le récit finit même avec les paroles de Jésus sur son rôle. Il se définit comme celui qui vient pour chercher sauver ce qui est perdu. On ne sait pas ce que Zachée fit ensuite. A-t-il suivi le Seigneur? Est-il resté chez lui? Est-il parti pour annoncer un monde, des temps nouveaux? On ne sait rien. Toujours est-il qu'il a vécu l'instant salut qu'on peut souhaiter à tout croyant pour qu'il fasse une découverte, qu'il puisse communiquer aux autres, pour que sa vie quotidienne change, tout en restant le quotidien, mais un quotidien éclairé, illuminé par une relation nouvelle avec ce Dieu caché et qui est si présent dans le cœur des humains. Si toutefois, en consentant à offrir le temps qui nous a accepté le temps et offrir le temps qui nous est donné aux autres dans cette relation qui révèle ce que l'on est. La bienveillance ne consiste pas seulement à pardonner, mais à ouvrir un avenir en s'adressant au meilleur de l'autre. La bienveillance consiste à rendre l'autre libre pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Ainsi agit Jésus avec Zachée. Un autre récit, celui de Marc au chapitre 7, la guérison de la fille de la Syrophénicienne, montre comment la bienveillance devient aussi une exigence. Une Syrophénicienne demande à Jésus de guérir sa fille et Jésus lui répond qu'il est venu rassasier les enfants et non les petits chiens. Or, oui, c'est ça comme il parle. Alors le récit commence par la présentation des protagonistes, suit la demande de la femme, la réponse négative de Jésus qui est inattendue et apparemment méprisante, puis vient la réponse de la femme et l'exaucement de sa demande par Jésus. L'épisode finit avec la constatation de la guérison de cette charmante petite fille que Jésus ne voit pas. Le dialogue entre la demande de la femme et la réponse de Jésus est relaté par la majorité des commentateurs qui s'interrogent sur la pertinence de sa réponse et sur celui de son choix sémantique. La femme le supplie de délivrer sa fille d'un démon impur et il répond avec une métaphore sur la nourriture. Il note heureusement que l'épisode se situe dans la section des pains et que Jésus utilise, disons, un champ sémantique qui trouvera sa pleine raison d'être dans l'évangile de Marc, chapitre 8, verset 1 et suivant. Lui-même rassasiera donc de pain les païens, comme il le fit pour les enfants. Le verbe « rassasier » fait écho évidemment à la multiplication des pains. Plus étrange encore est la réponse de Jésus, d'abord négative, puis la guérison qui semble, disons, un revirement. Le Seigneur est là en présence de cette Syrophénicienne et celle-ci a-t-elle aidé Jésus à envisager une solution à laquelle il ne pensait pas? Luc se pose la question secrètement. Jésus a-t-il écouté cette femme qui lui permet justement d'ouvrir l'horizon de sa mission? Oui, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe à ce moment-là. Ou bien voulait-il seulement la mettre à l'épreuve, sonder la force de son désir, lui permettant de dire qu'elle désirait ardemment le salut de sa petite fille? Voyez, il se passe quelque chose d'important dans ce dialogue archi simple. Une femme syrophénicienne, qui vit en Syrie, connaît bien ce pays-là par les ruines que la télévision nous apporte tous les jours. C'était un pays merveilleux, on était heureux de vivre, mais il y avait des gens qui souffraient, comme cette pauvre femme avec une petite fille, c'était une veuve. Alors elle demandait simplement la guérison de sa petite fille, comme d'autres femmes syriennes qui aujourd'hui réclament la paix, demandent vivre paisiblement avec des enfants, alors qu'ils accueillent même les Européens pour faire la guerre en Syrie, pour faire partie de ces troupes noires, noires comme le mal. Ce n'est pas la première fois en Marc que Jésus met à l'épreuve ceux qui viennent à lui pour être guéris. En effet, en plusieurs épisodes, l'insistance est mise sur là où les complications antérieures à l'action salvifique de Jésus, un événement, oui, une foule trop dense, La réaction de Jésus ou de ceux qui l'entourent retarde le miracle et requiert de celles et ceux qui veulent être guéris ou délivrés de leur misère une inébranlable obstination. Si Marc, dans les 6 premiers chapitres de son évangile, a tenu à signaler à ses lecteurs la connaissance que Jésus a des êtres et des situations, c'est bien pour leur indiquer que Jésus ne change pas d'avis au hasard des rencontres et qu'il accomplit son ministère comme il l'entend, librement. On peut donc penser qu'il en est de même lorsqu'il va en pays païen et lorsque la Syrophénicienne le supplie de délivrer son enfant du démon qui la tourmente. Il y va de la cohérence du récit de Marc. Et voilà pourquoi on doit interpréter le refus de Jésus comme une mise à l'épreuve de la Syrophénicienne. Jésus s'adresse à son désir profond, la prenant au sérieux. Il voit en elle une foi qui permet le salut, c'est-à-dire la libération intérieure. Un regard de bienveillance met à jour la foi inouïe de cette femme et la révèle comme porteuse de salut. Ainsi pouvons-nous comprendre comment Dieu nous rejoint dans nos difficultés et nos épreuves. Prendre le chemin de la foi, c'est croire à notre tour que Dieu nous veut du bien et que ce chemin du salut est son chemin parfois exigeant, souvent difficile, car il n'estompe pas les réalités de nos vies. Oui, la bienveillance est de l'ordre de l'expérience vécue au ras du sol, dans le quotidien.